Je suis un peu timide.
Qu'est-ce que tu viens de dire ?
Je suis un peu timide.
T'es un petit peu timide ?
Je suis timide. C'est donc c'est dans quoi ça déjà ?
Bonjour Lucie Montel.
Eh bien le bonjour.
Bienvenue sur la Cerise sur le Café.
Merci, merci pour l'invitation.
Un plaisir. Où nous trouvons-nous actuellement ?
Nous sommes actuellement dans les studios de Holly Belly et il n'y a plus de travaux.
Non, on n'entend plus les travaux. Effectivement, il y a ouais. Ouais, je pense qu'ils nous ont vus arriver, ils se sont dit tiens, eux, on va faire des travaux juste au-dessus d'eux pour bien faire du bruit, ça va être cool. Donc ouais, on est Nico m'a dit je te prête le studio mais il faut que tu me cites tout de suite. Et donc non, il a pas dit ça.
SO Nico Alari Holly Belly.
Voilà, donc on est dans le studio podcast / stockage de Holly Belly que Nico nous a gentiment prêté, ouais. C'est trop cool. Et donc, on est là pour t'interviewer. Est-ce que tu as la pression ? J'espère que oui.
Je te l'ai dit que j'avais grave la pression, ouais. Ouais, ouais.
Je vais te poser plein de questions pièges, attention. C'est pas vrai. Non, non. Du coup, j'ai voulu t'interviewer parce qu'on on s'est rencontrés rapidement. On a travaillé brièvement ensemble.
Ouais, très brièvement.
On partage pas mal de choses, je pense. Ouais. Et puis, tu viens de lancer quelque chose. On en parlera un petit peu plus tard.
Yes.
Et je trouve ça trop cool. Donc, j'avais très, très envie d'apprendre à te connaître parce ouais. que c'est le but du podcast.
Yes.
Et au final, je connais pas grand-chose et je suis certain que ça va intéresser plein de personnes. À peu près les 2 millions qui écoutent le podcast.
C'est ça.
Ouais. Donc, est-ce que tu aimerais commencer par... comment t'es arrivée dans le café ? Est-ce que tu veux parler un petit peu avant le café ?
Oui, bien sûr. Je suis arrivée dans le café il y a très longtemps. En fait, je suis tombée dans la marmite quand j'étais enfant, la vérité. En fait, pour la petite histoire, mes parents sont consommateurs de café. Et quand j'étais enfant, ils avaient une machine, genre avec Perco et tout, tu vois, on buvait du bon café. Et à partir de mes 8-9 ans, j'ai eu le droit à boire un café par semaine, un espresso par semaine. Donc je choisissais vraiment mon moment. Et c'est comme ça que déjà je suis tombée dans le café.
Trop bien.
Voilà. Après, vers mes 16 ans, mon papa a repris une épicerie fine, salon de thé, dans la ville dans laquelle j'ai grandi, dans l'Oise, une ville qui s'appelle Crépy-en-Valois. Donc la boutique s'appelait Grain de Café et on recevait 5 variétés de café différentes et on servait ça à nos clients. Et là j'ai vraiment commencé à m'intéresser et ça a vraiment attisé ma curiosité et voilà, j'ai adoré faire ça et bosser un peu pour mon père le week-end à servir du bon café. Voilà.
Trop bien. Donc, ouais. Du coup, j'imagine qu'à partir de... C'est à quel âge tu as commencé à pouvoir boire plus d'une tasse par semaine ?
Honnêtement, ça devait être vers mes 13-14 ans, tu vois. Là, okay. J'avais le droit à boire le café après le déjeuner avec mes parents.
Ok. Ouais. Donc, toujours avec le Perco ?
Toujours avec le Perco, ouais. Alors, avec du lait, forcément, et du sucre au début.
Ouais.
Et j'ai commencé par arrêter de boire avec du sucre et puis ensuite avec du lait et je prenais mon café, genre mon espresso serré, je sais pas, je devais avoir 14-15 ans, tu vois.
Trop bien. Ouais. Et tu te souviens ce que c'était comme café ?
Enfin,
pas forcément non, la pas marque ou quoi que ce
soit. Non, je me souviens pas. Bon, après, c'était pas du café spécialité, hein, tu vois, ça existait pas non. À l'époque. Je vais pas vous dire mon âge, mais c'était il y a longtemps. Ouais, mais c'était du bon café.
Ok, trop bien. C'est marrant de commencer comme ça, parce que je pense que la majorité des gens ont commencé de la même manière que toi, mais pas forcément avec un perco, et ouais. C'est plutôt avec soit avec une cafetière filtre, soit avec cafetière à piston, des espressos dans des brasseries, quoi.
Exactement. Et moi, j'ai découvert le café filtre très tard parce que mes parents n'étaient pas consommateurs de filtre. Même mes grands-parents n'en buvaient pas. Même mes grands-parents avaient genre une machine Perco. Enfin, c'était quelque chose de famille, tu vois.
Ok.
Et le café filtre, je l'ai découvert quand je suis arrivée à Paris et que je me suis installée en coloc avec ma meilleure pote qui, elle, buvait genre café filtre avec du lait. Et c'est là où j'ai découvert ça. J'ai pris cette habitude après de boire le filtre le matin.
Trop bien.
Ouais. Et après, okay. forcément, je suis passée par Nespresso. Hein. Je n'ai pas honte, j'assume.
Tout le monde en a bu.
Bah oui.
Et quand tu arrives à Paris, tu avais un perco, toi?
Pas du tout.
Tu faisais comment?
Non, du coup, cafetière filtre.
Ok.
Ouais.
Donc, tu as commencé comme ça.
Ouais.
Ok. C'est marrant. Ouais. C'est trop bien.
Ouais.
Okay. Tu avais déjà appris à faire mousser du lait, etc., du coup?
La mousse du lait, c'est marrant. Du coup, c'est le rituel. C'était mon grand-père qui nous faisait le café au lait avec la mousse.
Ouais.
Mais tu sais, c'était les vieilles machines où tu devais enclencher la chaudière version.
Okay. Version. Ouais, donc ça prenait du temps.
Ça prenait vraiment du temps. C'était un rituel. Et donc la mousse, ouais, c'est mon grand-père qui la faisait. Mais il faisait une très très grosse mousse, tu sais, hyper ouais. réconfortante.
Je vois très bien. Ouais. Déjà visuellement, c'est ouais. réconfortant une mousse comme ça.
Ouais, c'est clair.
Ok, trop bien. Ouais. Et donc, arrivé à Paris. Et tu faisais quoi? T'es venue pour quoi à Paris?
Moi, je suis venue à Paris pour les études. Alors, j'ai fait quelque chose de complètement différent du café. J'ai bossé dans le tourisme. J'ai fait un BTS tourisme.
Ok.
Et j'ai travaillé dans une agence de voyage. Et ensuite, j'ai pas eu mon diplôme. Mm-hmm. Et je me suis lancée parce que j'avais un rêve de gamine, c'était d'être comédienne.
Ok.
Voilà. Donc, j'ai fait ça. J'ai été comédienne pendant environ 5-6 ans. Donc, ça a été une super expérience dans ma vie. J'ai surtout fait des pièces de théâtre, plus que du ciné. C'était vraiment le théâtre qui me bottait. Un stade de ma vie, grosse remise en question, tu vois. Je me dis, mais je sens que je ne peux pas faire ça toute ma vie, tu vois. C'est, je ne me vois pas... évoluer vraiment plus loin. Et donc, cette petite idée, en tout cas, le café trottait encore dans ma tête à cette époque-ci de ma vie. Et je me suis dit, ouais, je vais ouvrir un coffee shop.
Ok.
Voilà. Trop bien. 27 ans. Je repars dans une vie genre au chômage, je sais pas. Je me dis, il faut que je me forme. Mais à l'époque, il n'y a pas vraiment de formation de barista qui existe à Paris. Mm-hmm. Donc, j'arrive chez Fragment.
Okay.
Donc là, on est en 2015, je crois.
Attention, là, si les gens font un calcul, ils peuvent savoir ton âge. Hein.
Ouais, je pense, mais ça va, c'est pas... J'ai 34 ans. Donc, on est en 2015. J'arrive chez Fragment en cuisine.
Ok.
J'ai jamais fait de cuisine. J'ai mais jamais, comment... En fait, ils cherchaient quelqu'un à mi-temps, tu vois, pour faire les pâtisseries, les avocats de toast.
Ok, trop bien.
Et donc, j'ai pris ce job.
J'en profite pour dire, il y a pas mal de gens qui, en ce moment aussi, je sais pas si tu dois avoir ça aussi avec tes formations. Mince, j'ai spoilé. Mais il y a beaucoup de gens qui se remettent en question.
Ouais.
En ce moment, beaucoup.
Ouais.
Le Covid a beaucoup.
Bien sûr.
Et beaucoup de gens me posent des questions autour de la restauration.
Ouais.
Ils veulent se reconvertir en... la cuisine, etc. Et j'ai donné parfois un peu ce conseil-là, c'est que sachez que si vous rentrez en tant que serveur, cuisinier, barista, n'importe où, les portes sont beaucoup plus facilement poussables,
ouais,
cette expression n'existe pas,
aussi, ouais. Ouais.
Pour changer de métier dans la restauration.
Ouais.
Vous pourrez facilement aller d'un poste à un autre quand vous y êtes et que vous faites du bon boulot et que
surtout,
vous montrez
ouais,
votre motivation.
Si tu montes ta motivation ouais. Et que tu t'es impliqué, ouais, je suis d'accord.
Donc n'hésitez pas à commencer comme serveur si vous vous posez des questions dans un petit coffee shop, etc. Intéressez-vous à la cuisine et les portes seront
ouais.
ouvertes, c'est sûr.
C'est vrai. C'est
ou
totalement
dans l'autre
vrai.
Sens. Voilà. Ouais. Et j'imagine que ton histoire va aller dans ce sens-là.
Alors ouais, donc... Donc, on est en 2015 et je fais des carrot cake et des toast avocat.
Ouais.
Ça me plaît, hein, mais moi, je veux être derrière la machine à café. Mmh. Donc, à l'époque, donc, mes shifts se terminaient vers 15h.
Mmh.
Et donc, après 15h, moi, j'allais derrière la machine. Et on m'a appris à faire du café sur une super machine, tu sais, une Kiss van der Westen, tu vois,
okay.
Manuelle. Donc, vraiment, tu... t'apprends tout de A à Z, la calibration, enfin tous les gestes, et du coup c'est Baptiste qui est mon mentor sur cette histoire. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses.
Baptiste, si tu nous écoutes.
Baptiste, mon mentor, ouais. Et donc j'ai commencé à être barista, je sais pas, au bout de 6 mois, 6-7 mois, tu vois.
Ok.
Voilà.
Donc Baptiste a tout appris et tu lui avais bien sûr dit que ça te bottait bien.
Ouais, ah, mais moi j'ai été hyper curieuse aussi, c'est qu'à l'époque, tu vois, il n'y avait pas autant de support, de livres, tu vois, de documentation sur le café à l'époque. Donc j'ai beaucoup geeké sur les forums, genre Barista Hustle en anglais et tout, ouais. Parce que j'étais... Enfin, c'est tellement intéressant, en fait, le café, quand tu t'y plonges vraiment, c'est presque de la chimie. Mmh. Et tu peux découvrir des choses, mais tous les jours, même encore aujourd'hui, j'apprends.
Je pense que tu n'arrêteras jamais d'apprendre.
Hein. Non. Et c'est ça qui est beau.
Ouais.
Ouais.
Enfin, on n'apprendra jamais d'apprendre. Ouais. Ok, trop bien. Et donc là, tu as commencé premier shift chez Fragment, comme barista.
Tellement la pression. Ouais. Tellement la pression quand on me demandait genre 4 cappuccinos. Parce qu'avec une machine manuelle, tu vois, tu pèses tous tes shots. Et là-bas, ils étaient vraiment très rigoureux. Mmh. Et si tu te plantais de 1 ou 2 secondes ou 3 grammes, tu jetais le shot, tu recommençais. Donc ça a été une très bonne école. Ouais. La vérité, ouais, ça m'a vraiment bien formé sur la rigueur. Mmh. Ouais.
Ouais, c'est trop bien. C'est pas évident en rush, mais après, ouais, ça forme, ouais. C'est bien. Trop bien.
Ouais.
Donc là, t'es resté combien de temps en poste? Ça t'a plu?
Pas très longtemps, ça m'a plu, mais je voulais voir autre chose.
Okay.
Moi, mon but, donc, c'était d'ouvrir mon coffee shop. Donc je me disais, ben, je vais prendre des jobs un peu dans plusieurs maisons pour prendre ce qu'il y a à prendre, et après, j'ouvrirai mon endroit. Donc ensuite, je suis arrivée chez Ten Bells.
Ok.
Ten Bells Canal.
Ah, donc tu es la deuxième personne de ce podcast à être passée par Ten Bells.
Ouais, ouais, ouais. Miaela aussi. Ouais. Ouais, ouais. Donc Ten Bells, j'ai appris énormément de choses aussi. Ça a été une très belle expérience dans ma carrière.
Donc au 10 rue de la Grange-Belle, celui du canal.
Exactement, ouais. Okay. Et là, je me rends compte que finalement, ouvrir mon endroit, je ne sais pas si c'est quelque chose qui me botte tant que ça. Parce que
c'est arrivé tôt quand même.
Ouais, au bout de peut-être 1 an et demi, tu vois.
Ok, quand même. Ouais. Ouais.
J'aime mon métier. Genre, j'aime être derrière la machine, j'aime être en service, j'aime tout ça. Et donc, en parallèle, tu vois, je commençais à construire mon business plan, à chercher des investisseurs, etc. Et en fait, je me suis dit, pas tout de suite. Mmh. En vrai, pas tout de suite. Je kiffe trop ce que je fais.
Trop bien. Ok.
Voilà.
Donc, t'es resté 1 an et demi chez Ten Bells?
Je suis resté presque 1 an et demi, 2 ans chez Ten Bells.
Ok.
Ouais.
Trop bien. Ouais. Et vous, c'était une équipe de combien là à ce moment-là?
On était 4.
4 baristas?
Ouais.
Okay.
Meilleure équipe.
Ah ouais?
Ouais. J'étais avec Jules, Quentin, qui maintenant est fondateur de la Main Noire.
Ok.
Et Bronti, ma manager, qui a été géniale. Bon, elle est repartie en Australie. Mm-hmm. Mais c'était une bête d'équipe.
Trop bien. Mais en plus, là, c'était encore un peu les débuts, non?
Ouais, c'était les débuts, ouais. Mm. Ouais.
Ouais, trop bien. Non, Ten Bells, très bonne école, je pense, pour les baristas, et ça peut être très
totalement.
Cool.
Totalement. Mm. Ouais.
Trop bien. Ensuite ?
Ensuite, j'arrive en tant que head barista à l'hôtel Hoxton.
Ok.
Ouais.
Je vois très bien, j'y suis allée il n'y a pas très longtemps.
Ouais, ouais. Je suis pas restée très longtemps.
Ouais, je suis passée, j'ai vu même justement une Strada maintenant et 2 Mythos.
Ouais, ouais, non, ils sont très bien équipés.
Je me suis dit, ça avait l'air bien entretenu.
Ils sont très bien équipés, mais moi, j'ai pas trouvé ma place dans un grand groupe.
Comment ça se passe? Parce que c'est là, du coup, j'imagine que c'était pour la clientèle de l'hôtel.
Pas que. Hein, il y avait aussi des gens de passage qui venaient pour boire un café.
Okay.
Donc le shift commence à 7h, hein, tu vois. Ouais. Donc il y a 2 bars à l'hôtel Hoxton.
Ouais.
T'as un bar, une machine dans le lobby, donc à l'entrée de l'hôtel, et à l'intérieur dans le restaurant. Donc il faut pouvoir gérer quand même quasiment 2 équipes, tu vois.
Ouais. T'avais déjà eu de l'expérience en management chez Ten Bells ou pas?
Oui, mais très très court. Okay. On va dire que j'ai managé sur 3-4 mois.
Ok.
Ouais.
Et de là, j'imagine qu'il y avait aussi la gestion de stock, les commandes, les choses comme ça qui démarraient là.
Ouais, bien sûr. Non. Ouais. Ouais, ouais. Ça encore, je trouve que c'est pas le plus compliqué. La gestion des stocks, l'humain.
Ouais.
La vérité, c'est l'humain. T'as beau, tu vois, être passionné par ce que tu fais, tout le monde ne l'est pas, en fait, comme toi, tu l'es. Et des fois, ouais, tu te retrouves face à des managers qui comprennent pas, en fait, que t'as d'autres besoins que ce que eux ils avaient calculé, tu vois. Je parle en termes humains.
Ah ouais.
Et donc, c'est pour ça que moi, je m'y retrouvais pas. Ça a été un challenge. Honnêtement, même en tant que femme, tu vois, ça a été un gros challenge de prendre confiance en moi et de dire les choses, ce qui n'allait pas, etc. Mais ouais, c'était... Franchement, j'ai fait ma période d'essai et je suis partie.
Qui était de quoi? 2 mois, 3 mois?
Ouais, 2 mois. C'était quoi? Attends. Je suis restée 2 mois et demi, un truc comme ça, je crois.
Ouais, mais c'est clair que c'est pas évident. Déjà, l'humain dans la restauration est encore différent de l'humain dans les grands groupes, etc.
Ouais.
Parce qu'on se retrouve en direct avec, avec un humain, justement, qui a des sentiments, qui a des humeurs.
Et puis qui a des ambitions différentes, qui a de l'investissement aussi différent.
Une personnalité différente.
Exactement, ouais.
Je pense que le choix de ses collaborateurs, collègues, patrons, etc., devrait être plus...
Ouais.
C'est pas qu'une question de compétence, c'est une question juste de est-ce qu'on s'entend ou pas, est-ce qu'on peut fonctionner ensemble.
Exactement, c'est une question d'énergie. Ouais.
Clairement, parce que tu peux, de toute manière, on peut tout améliorer tant qu'on a envie. Je pense que si un jour je devais recruter des gens, je recruterais pas forcément par rapport aux compétences, mais...
Oui,
je
parce
prends
que
sort les, d'avoir autre les, chose, d'autres en, critères en, qui entrent en compte.
Et en vrai, les compétences, ça s'acquiert avec le temps, tu vois.
Clairement.
Si la personne est motivée et qu'elle veut apprendre et se former davantage, c'est pas quelque chose qui est dans sa... Enfin, oui, ouais, la personnalité, c'est la base. C'est important. Ouais, ouais.
Mais oui, donc je comprends que arriver dans une équipe où tu te sens pas à ta place, je resterai pas non plus.
Ouais.
Ça m'est arrivé pas rien de aucune animosité, etc. Mais dans certains endroits où tu te sens pas quoi.
Ouais, c'est ça.
Faut juste pas.
Et
forcer.
Puis c'est pas grave en fait.
Bah non.
C'est pas grave. Il y a des centaines d'endroits qui existent où tu peux faire ta place et créer aussi
clairement
ce que t'as envie. Donc quand je dis créer, moi après, je suis arrivée à Café Oberkampf.
Ouais.
Et donc j'ai managé Café Oberkampf pendant quasiment 2 ans.
Café Oberkampf, c'est Café Mérico ou ça n'a rien à voir?
Ouais, c'est la même boîte.
Ok.
Café Oberkampf a fermé ses portes l'été dernier, il me semble.
Ok. Donc il y en avait deux.
Il y en avait deux, ouais.
Ok.
Ouais.
Donc toi, t'es arrivée chez Café Oberkampf.
Alors j'ai commencé à Méricourt.
Mmh.
Et en fait, mon profil était vraiment barista plus que service, donc Guy a préféré que j'aille à Oberkampf et ça a été une expérience aussi incroyable, humainement pour le coup génial.
Trop bien.
Ouais.
Donc là, c'était quoi? J'ai jamais été à Café Oberkampf, j'ai que fait Café Méricourt.
Ouais.
C'était comment? C'était un petit coffee shop
Café Oberkampf, c'est un petit coffee shop. Enfin, c'était un petit coffee shop. Il y avait 5 tables.
Ok.
Tu vois. Très bien situé dans le 11e. On avait une clientèle de quartier que j'adore donc là humainement j'ai fait de très très belles rencontres et dont Juliette, si tu m'écoutes. Je rencontre Juliette, donc qui elle est pâtissière. Donc on est un binôme, on travaille tout le temps ensemble. Donc on est le binôme Lucie Juliette. Et là je me dis ah ouais, je crois que j'ai rencontré la personne avec qui je pourrais peut-être potentiellement ouvrir un lieu.
Ouais.
Ouais. Voilà.
Ok. Ah,
et
tu teases.
Bah je tease, mais en vrai la réalité c'est que Covid.
Donc là, ouais, donc début Covid.
Bah alors non, ça nous reste dans la tête, tu vois. Donc toutes les deux, on quitte Café Oberkampf et j'arrive à Olibelli.
Ok, et pourquoi tu quittes Café Oberkampf là?
Parce que j'ai estimé avoir fait le tour, tu vois. Dans l'idée aussi de peut-être ouvrir un lieu, tu vois. Mais voilà, ça reste dans notre tête. Okay. Et on se dit chacune, on continue notre expérience, on continue à apprendre, à améliorer nos compétences, etc. Mm-hmm. Et donc là, l'aventure au Libelli commence.
Okay. Et Juliette est partie où ?
Et Juliette, elle est partie chez Ten Bells.
Ok.
Donc là, on est fin 2019.
Fin 2019, ok. Ouais. Donc là, t'arrives chez Libelli.
J'arrive chez Libelli.
Comment t'as vu une annonce
Ouais, j'ai vu une annonce. Ils cherchaient un barista.
Ouais.
Je me suis dit bon, je passe de manager d'un café à simplement exécutante. Ça me pose pas de problème en fait. Je veux apprendre le volume. Je veux apprendre à gérer des rushs de malade. Je veux apprendre la turbi life.
La turbi life.
Bah ouais, c'est comme ça qu'on appelle ça.
J'aime bien.
Et ouais, j'arrive chez Olivelli, donc on est en décembre 2019.
Ok.
Entre-temps, j'ai couru un marathon.
Ah.
Ouais. Parce qu'avant, en fait, quand j'ai fait mon entretien avec Nico, par rapport à ma date d'embauche, je me dis bon, par contre, je pars à New York en novembre pour courir un marathon. Est-ce que je peux commencer après ? Et donc, voilà. Donc okay. J'ai réussi à jongler entre mes deux contrats pour pouvoir vivre cette expérience de course à pied. Je te parle de ça parce que je sais que tu cours aussi, donc c'est pour ça que je fais une petite parenthèse.
Et comment le marathon de New York alors ?
C'est une expérience magique.
Le départ doit être dur, non ?
Tout est dur. Tout est dur. Après, on va dévier de la conversation café, honnêtement, je recommande à qui que ce soit qui pratique la course à pied de faire un marathon.
Ouais.
Vraiment. C'est une expérience de ouf. Ouais.
Votre premier marathon, la fin de votre premier marathon, c'est génial. C'est une sensation que vous devez tous connaître.
Ouais.
Dans la mesure du possible.
Incroyable. Ouais. Bon. C'était la parenthèse course à pied.
Courir un marathon.
Donc voilà, j'arrive à Olibelli. Waouh. J'arrive. Bon, alors, contexte. J'arrive en décembre. Et à cette époque, il y a les gilets jaunes, il y a les grèves SNCF. Et en fait, la Turbi Life, je suis là, ça va, c'est tranquille en fait.
Ouais.
Mais parce qu'il y a eu, il y a vraiment un contexte.
En plus, il devait y avoir toutes les manifs sur Place de la Rep.
Ouais, aussi, ouais. Mm. Donc, mois de décembre, assez plutôt calme.
Ok.
Donc, on reprend en janvier. C'est... Je m'attendais en fait à ce que ce soit plus physique,
ouais.
Contexte. Et puis Covid, et puis confinement, puis arrêt de l'activité.
Parce que le Covid, premier confinement est arrivé quand en mars ?
C'est en 2020, ouais, mars 2020.
Mmh. Donc c'est rapide.
Ouais, donc au final, j'arrive chez Olibelli et 3 mois après, on ferme les portes, tu vois, donc... J'ai pas eu la sensation d'avoir vraiment vécu une vraie turbi life, tu vois.
Ouais. Tu t'es remise en question à ce moment-là ? Sur le choix d'Olibelli ? Ou est-ce que tu as réussi à te dire justement, bon, il y a le Covid, ça va reprendre
Pendant le premier confinement, franchement, je vais pas te cacher, j'ai vécu ma meilleure vie.
Mmh.
Ouais. Parce que tu t'arrêtes de travailler, tu prends le temps de faire les choses. Je suis confinée dans un appart parisien sans balcon, mais je me remets à lire mes bouquins sur le café, tu vois, ça va, là ça va.
Ok.
Là ça va. Donc on arrive en fin de confinement, je crois que la reprise de l'activité ça a été en juin, il me semble.
Ouais, quelque chose comme ça.
Juin-juillet, quelque chose comme ça. Et là, je suis tellement heureuse de revoir mes collègues parce que Olibelli, c'est une famille aussi. Hein, faut pas l'oublier. On reste tous en contact. C'est une grande famille et donc on est tous vraiment hyper heureux de pouvoir resservir du bon café, de voir les clients. Bon, on est tous masqués. Ça, c'est un peu. Ah, ça fait bizarre de repenser à ça.
Ouais.
Ouais, j'ai pas vraiment une belle nostalgie, tu vois, mais bon, enfin, ça fait partie de.
Ouais, mais les gens étaient contents de pouvoir revenir.
Ouais.
Mais c'est vrai que J'ai pas un très bon souvenir non plus parce que c'était passe sanitaire, c'était faire le flic sans cesse pour les passes, pour les masques, pour les. J'avoue, ça c'était un peu. Mais c'était bien, on a recommencé. La vie reprenait tout doucement.
La vie reprend tout doucement. Mais en novembre, deuxième confinement.
Ouais, j'ai aucune notion de date.
Si, c'était en novembre, du coup, 2020. Et là, par contre, ce confinement, il a été dur pour moi.
Ok.
Il a été dur parce que là, je me remets en question. Je remets en question mon job.
Ouais.
Et je me dis, je suis perdue. Je suis perdue. Je sais plus si j'ai envie de faire du café. Je sais, tu vois, je suis dans un secteur qui est fragile. Tu vois, notre activité, finalement, elle est liée, à tout ce genre de problèmes, en tout cas problèmes sanitaires qu'il y avait à cette époque. Et ouais, j'étais vraiment pas hyper bien. Mais j'ai un petit ange qui est venu me voir, Juliette d'Olibelli, qui me dit « Ouais, Lucie, est-ce que ça te dit de me former au métier de barista ?» Et à l'époque, on pouvait se voir, en fait. Tu vois, il y avait le... Bon, à ce confinement-là, on n'était pas enfermés. Donc ça, du coup, ça, c'était cool. Donc on se voyait avec les copines d'Olibelli. Et donc, Juliette, on se voyait une fois par semaine. Et donc, je préparais ma petite formation, mes petits modules que j'écrivais sur mon carnet et tout. Et en fait, j'ai voulu pousser le truc vraiment plus loin. Et là, j'ai commencé à écrire toutes mes connaissances. J'ai écrit presque une thèse sur le café. Enfin, franchement, ça m'a pris 7 mois.
Ouais.
Tu vois. Et donc, j'ai écrit une formation. J'ai créé aussi des modules de présentation. Et quand l'activité a repris chez Olibelli, j'ai fait part un peu de mon ambition à Nico et Sarah et je leur ai proposé de tester ma formation sur mes collègues qui potentiellement pouvaient être intéressés par se former sur le café. Et donc, j'ai eu un petit groupe très impliqué.
C'est là que tu as commencé le cupping ?
Les cuppings, j'ai commencé avant. Okay. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais moi, mon but chez Olibelli, c'était de dynamiser, tu vois, l'espace café, proposer d'autres cafés que ce qu'on avait, tu vois, juste dans le hopper à espresso, proposer des guests. Et donc, je faisais des cuppings tous les 2 mois.
Okay.
Mais du coup, à travers la formation, on fait un cupping, effectivement. Et ouais, ça m'a plu. Ça m'a plu de transmettre, tu vois, ta passion. Voilà, c'est comme ça que... Donc, ça y est, ça avait fait vraiment le chemin dans ma tête et je me suis dit, je veux être formatrice de barista.
Les étoiles se sont alignées, c'est tu t'es dit, bing,
ouais.
C'est ça.
Exactement.
Okay, trop bien.
Ouais.
Alors avant de continuer, du coup, la Turbilife, t'en as pas parlé.
Ah ouais, la Turbilife, laisse tomber, tu sors de là, t'as l'impression, tu sais, d'être passé à travers un tambour de machine à laver. Mais il y a une bonne énergie, en fait.
Ouais.
C'est ça, parce que chez Olibelli, tout est calculé. Genre, il n'y a rien qui est au hasard dans le bar. Tout est millimétré, tout est fait, en fait, pour que tu ne perdre pas ton énergie.
Il n'y a pas beaucoup de place au hasard, en fait.
Ouais, exactement. Donc, Turbilife, ouais, c'est dur, quand même. Ouais, c'est chaud.
si vous voulez apprendre à envoyer, envoyer en quantité...
Je pense qu'Olibelli, c'est une des seules maisons à Paris qui est capable d'envoyer autant... je parle de café, mais aussi la nourriture en volume et de la qualité, en fait. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que on envoie du volume, mais c'est on fait du bon.
Je pense que c'est ce qui fait que ça marche et que les gens se sentent aussi bien là-dedans, c'est que je pense que c'est ce qui fait marcher leur business, c'est qu'ils ont réussi à envoyer du volume en quantité et en qualité.
Ouais, c'est ça.
Et il y a pas de secret, c'est difficile de faire tout en même temps.
C'est très difficile.
Mais du coup, c'est ce qui fait que ça tient debout, que les gens sont contents parce qu'ils sont, ils sont bien lotis. Ouais. Et, donc, je parle des employés. Hein.
Ouais. Mais même les clients, tout le monde.
Mais ça se ressent. Ouais. De toute manière, je pense que des employés heureux, ça fait des clients heureux.
Tout à fait. Je suis d'accord.
Mais ouais, ok. Donc, TurbiLife, bonne école. Ouais. Et du coup, là, tu te dis bam. Formation. Donc là, on est en 2020, t'as dit. Hein.
Est-ce qu'on n'est pas en 2021?
Peut-être.
Ça y est, je perds le fil du temps.
Je ne l'ai jamais eu, donc...
Ouais.
Mais du coup, là, tu as commencé tes formations, ouais, t'en as parlé.
Je commence les formations, on fait ça...
T'as alors, ta thèse aussi.
Ouais. On fait ça à partir de... est-ce qu'on n'est pas en 2021 déjà?
Peut-être.
Putain, je sais même plus.
Donc parce qu'il y a eu le confinement en novembre 2020.
Ouais. On reprend l'activité. Ouais. Oh là là, je sais.
Bon, c'est pas trop
bon,
grave.
C'est pas très grave en vrai. C'est pas très grave. Toujours est-il que. Donc, je. Les formations, c'est tous les lundis à Oulibelli.
Ouais.
Après un shift quand même. Faut pas l'oublier. Genre, surtout que le lundi, c'est un jour qui est assez intense.
Bah, beaucoup de coffee shops sont fermés aussi le lundi, donc les coffee shops ouverts récoltent tous les gens.
Ouais. Donc on fait ça tous les lundis pendant plusieurs mois, hein, du coup, parce que, bah, en fait, de former à Oulibelli, ça m'a permis aussi d'évaluer le temps que ma formation aussi prend. Je sais pas, on doit terminer la pratique, allez, février 2022, du coup. Ouais, on doit être en février 2022.
Mais t'as combien de personnes en formation?
À peu près 5 ou 6.
Quand même.
Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Et tous très impliqués, très motivés. Donc, ça fait plaisir.
Trop bien.
Là, ça fait grave plaisir. Et surtout, je vois aussi que... j'ai quand même certaines qualités de pédagogie parce que je les vois vraiment bien avancées, notamment en pratique, sur le lait, tu vois. Sarah, à l'époque...
Tu peux dire son nom de famille, s'il te plaît?
Ah oui, c'est pas Sarah Manel, c'est pas Sarah Normal, c'est Sarah Bibi.
Ah ouais. Non, c'était un challenge pour essayer de dire le nom de Sarah que tu as formé récemment.
Ah, mais on peut y venir après, mais ouais, donc Sarah Bibi, donc ma boss, elle me fait un cœur quand même au bout de, je sais pas, 4 heures de pratique, tu vois.
Ah oui.
Moi, mon premier cœur, j'ai dû le faire au bout de 3 mois, tu vois. Donc je me dis, c'est cool. Je suis assez pédagogue, les gens comprennent, tu vois, ce que j'explique, ça a du sens. Je me dis, je fais pas fausse route.
Trop bien.
Voilà.
Nico aussi, tu l'as formé? Bon, il était déjà formé.
Bien sûr que j'ai formé Nico à faire des signes. Non, je rigole. Non, non, non.
Trop bien, ok. Et donc là, vous avez fini en février à peu près, je crois.
Ouais, c'est ça.
Ok. Et ensuite?
Et ensuite...
C'était quoi le but pour ces 5 personnes là de se faire former? C'était éventuellement de venir derrière le bar? C'était
pas forcément, mais ils étaient curieux, ils voulaient apprendre. Et ça, je trouve ça cool. Aujourd'hui, ah oui, les gens curieux, soyez curieux, s'il vous plaît. Vraiment, c'est la base de la life, en fait. Ouais.
Mais on revient encore sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur c'est facile de bouger d'un poste à un autre. Et parfois, juste en regardant les gens faire, on peut apprendre. Et là, vous aurez forcément un jour, quelqu'un est malade, absent. Et si vous pouvez le remplacer, avec 2-3 trucs, c'est trop bien. Déjà, ça peut sauver tout le monde. Et c'est trop bien. Enfin, moi, je trouve que c'est trop bien de pouvoir le faire. Je l'ai déjà fait en cuisine. Je suis déjà allé en cuisine parce que j'avais regardé et je savais faire.
Donc, du coup, un jour,
il y avait besoin, j'y étais. Ouais. Et je savais, j'avais jamais fait de cuisine. Hein. Bien sûr que tu peux boire un verre d'eau.
J'ai soif. Attends, je vais me chercher un verre d'eau.
Je sais même pas, j'aurais dû ramener de l'eau. L'eau, elle est potable ici ou pas? Aucune idée. Nico, est-ce que l'eau est potable? Étant donné que le podcast sortira pas tout de suite, on n'aura pas la réponse. On sera peut-être à l'hôpital d'ici là. Bon, il y a un perco derrière toi aussi, enfin... Donc, je pense qu'il doit y avoir l'eau potable. Tiens. En plus, il fait super froid ici. Non, ça va. On
je
a
suis
mis...
de retour.
Déjà ? Rapide ? Ouais. mais ouais, donc du coup, trop, trop bien. Enfin, faut s'intéresser. Et même si vous n'avez pas l'ambition d'aller derrière le bar, d'aller en salle, d'aller en cuisine, mais c'est juste que c'est... savoir comment les choses fonctionnent quand vous travaillez en restauration, ça vous donne plein de clés pour pouvoir avancer et travailler mieux.
La polyvalence, c'est hyper important. Enfin, après, on y reviendra dans le métier de barista. Enfin, faut être polyvalent aussi. Et ça te permet de pouvoir même accéder aussi à des postes à responsabilité. Bon, c'est bien. Il faut être curieux, polyvalent.
Tiens, je vais prendre une chouquette. Merci pour les chouquettes, Lucie.
On fait de l'ASMR ou pas ?
Alors, tu sais que je ne supporte pas l'ASMR. Et je suis misophone. C'est... Il y a forcément... mettez des commentaires, s'il vous plaît, partagez ceux qui le sont aussi. Mais je ne supporte pas les bruits de bouche.
Je déteste aussi.
Ah, ça me...
Je déteste.
Donc là, si c'est moi, je m'entends dans le casque et tout, ça devrait aller. Mais je ne vais pas infliger ça aux gens parce que moi, je déteste ça. Donc, tous les misophones, manifestez-vous. Non, mais je vais m'éloigner du micro. Je vais te poser une question pour continuer. Mais...
Vas-y.
T'allais continuer sur après février, du coup, je t'avais interrompu.
Oui, là, ça y est, hein, dans ma tête, je suis certaine de continuer ma carrière dans ce sens-là. Du coup, avec Nico et Sarah, on s'arrange pour que je puisse être à mi-temps, chose qu'ils ne font jamais. Hein. Olibelli, c'est quand même un business model où... tout le monde est à plein temps, donc on arrive vraiment là à mettre en place ça, et vraiment je les remercie pour ça. Donc je travaille à Olibelli, je crois, 3 jours, hein, quelque chose comme ça, et le reste du temps, je peaufine ma formation. Là, j'avais vraiment besoin de finir de tout mettre en page, et ça a duré jusqu'à septembre. Je passe l'été à Olibelli. Et en septembre, je crée ma boîte. Mmh. J'ai déjà un premier client. C'est incroyable ce qui s'est passé. Pierre, si tu nous écoutes. Donc Pierre, fondateur de Be Coffee. Mmh. Un petit comptoir sur la rue de Notre-Dame de Nazareth. Et Pierre, en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement curieux, qui a fait beaucoup de choses, qui a eu plusieurs vies dans sa vie. Et là, il s'intéresse au café. Mais il connaît rien. Donc pour moi, gros challenge. C'est la meilleure école pour moi. Il veut ouvrir son coffee shop. Il veut se former au métier de barista. Allez, go.
Trop bien.
Ouais.
Alors... Et du coup, tu montes ton entreprise là. C'est quoi ? Tu peux le dire le nom ? Je veux pas le dire. Je vais faire une erreur.
Mon entreprise, elle s'appelle Grindin.
Ok. J'allais le dire en français, tu vois, genre.
Grindin.
Grindin.
Grindin. Ouais. Grindin. Pourquoi Grindin ? Vous vous posez la question ?
Oui, je vous pose la question.
Alors, Grindin, ça veut dire beaucoup de choses. En anglais, déjà, il y a un peu des connotations de drogue. Je suis allée sur genre Urban Dictionary pour vraiment vérifier. quelqu'un de grinding aussi, c'est quelqu'un qui, tu vois, qui s'en sort, qui fait des choses, qui excelle dans son domaine. Et grinding, c'est aussi le titre d'un morceau de rap du groupe Clips, un groupe américain. Et en fait, quand j'étais plus jeune, c'est un des morceaux préférés.
Okay.
Vraiment, genre, c'est production Neptunes, donc je suis fan de Pharrell Williams, des Neptunes. Et là, je me dis, ah ouais, ça a du sens, parce que grinding, on grind le café, et grinding, quoi. Un des meilleurs sons des Neptunes, donc...
Alors, attends, parce que du coup, ça devient une habitude sur le podcast, mais est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire grinding? Enfin, en anglais, qu'est-ce que ça veut dire to grind? À ma grand-mère, parce qu'elle parle
pas
anglais.
Bah ça veut dire moudre le café. Enfin, moudre en tout cas, moudre quelque... Pas forcément le café, moudre quelque chose.
Voilà.
Ouais.
Ma grand-mère va parler anglais et café bientôt. Ok, donc trop bien. Et premier client, même avant même, tu l'as trouvé avant même de vraiment monter ta boîte.
Exactement. C'est enfin, c'est lui qui m'a trouvé.
Ok.
Ouais.
Par Instagram, par des contacts.
Non, par Pauline. Pauline, ouais. Du coup, mon ancien manager d'Oli Belli, qui est devenu mon ami et qui travaille chez MOOC, et donc un coffee shop à Belleville. Et du coup, Pierre va souvent boire des cafés là-bas et il commence à discuter avec elle. Et donc, elle lui donne mon contact. Et donc, on s'est entraîné, enfin, je l'ai formé l'été. Cet été, donc 2022, en parallèle de mon job chez Oli Belli.
Ok, trop bien.
Ouais,
et à ce moment-là, cool. Est-ce que tu... J'imagine que quelqu'un qui n'a pas de connaissances en café, etc., enfin, je sais pas, je me mets à ta place, je le ferai pas pour n'importe qui non plus, parce que...
Comment ?
Je formerai pas n'importe qui non plus qui n'a pas de connaissances en café, parce que je pense que ça peut être risqué. Et...
Moi, je trouve pas. Ah, au contraire, il y a tout à faire. Et du coup, c'est ça qui est beau, tu vois. Aujourd'hui, quand je vais boire un café chez Be Coffee, genre, ils se posent des questions que moi, je me pose quand je dial-in mon espresso. Et tu vois, et je me dis, j'ai réussi à lui transmettre le goût.
Ah oui, c'est
trop bien. Et non, au contraire, c'est hyper challengeant et c'est trop beau. Franchement, je suis heureuse et fière. D'avoir travaillé avec
lui. Ouais, il a eu la bonne démarche, je pense, en tout cas. Déjà, de poser la question aux bonnes personnes.
Ouais, aussi, ouais. Mmh. Mais c'est aussi un truc cool dans notre milieu, c'est que si tu discutes avec les gens, enfin, on n'est pas fermé, en fait, tu vois. Enfin, moi, à l'époque, quand je travaillais chez Café Oberkampf et que j'étais vraiment très proche des clients, enfin, quand ils me posaient des questions sur le café, mais... Enfin, je suis heureuse d'y répondre. Bon, pas pendant un rush.
Oui.
Là, sinon, je te regarde trop mal.
Si vous voyez notre visage fermé et super concentré, attention.
mais non, c'est... Enfin, moi, en tout cas, ça me procure du bonheur.
Voilà. Ouais. D'ailleurs, ouais, si un jour, vous voulez vous former sur le café, la meilleure façon de savoir où vous former, c'est déjà d'aller chez Grindin. C'est de poser la question aux baristas, parce que c'est eux qui auront le meilleur recul.
C'est vrai.
C'est, est-ce qu'on s'est formé à tel endroit, est-ce que c'était bien ou pas?
Exactement.
Ou est-ce que je connais d'autres endroits? Et il n'y a rien de mieux, parce qu'une formation, ça peut être un pied à l'étrier, comme ça peut être révélateur de ouf.
Ouais.
Et un pied à l'étrier, c'est bien. Mais parfois, ça ne suffit pas, quoi. Il faut derrière développer la passion, la sortir de soi-même. Et y a des personnes plus douées que d'autres pour ça.
C'est vrai.
Pour nous faire découvrir cette passion. Donc, il faut des gens passionnés. Et donc, posez la question à des baristas. Et ça vous amènera, comme là, Pierre, à Lucie. Et à l'ouverture d'un coffee shop. Du coup, là, ça a duré combien de temps exactement? Il l'a ouvert en combien de temps?
Ah, ça a été super rapide. On s'est contacté, je crois, en juin. On a commencé la formation en juillet. Mm-hmm. En mi-septembre, c'était ouvert.
Trop bien.
Ouais.
Trop bien.
Ouais.
Donc là, t'as créé un module spécialement pour lui ou t'as...
Alors,
ou ça a été au fil.
Non, mais vraiment, dans ma formation, il y a 8 modules. Et sur la formation barista, pour le coup, c'est quelque chose qui reste, assez cadré. Après, dans mon offre, je fais de l'accompagnement aussi, du coup, en ouverture d'établissement. Et là, je m'adapte. Mm. Je m'adapte aux problématiques, à toute la logistique, en fait, du lieu. Donc, je m'adapte. Mm. Ouais.
Ok, trop bien. Et du coup, démarrage, t'as aidé aussi là-bas, t'as été...
Ouais, alors, effectivement, dans mon accompagnement, du coup, ça comprend quand même... ma présence, donc une semaine sur la semaine d'ouverture, et ensuite il a 2 jours qu'il peut utiliser, il peut m'utiliser 2 jours au choix dans les 6 mois. Comment ?
T'es une machine aussi.
Je suis un peu une machine, ouais. Et donc, voilà, aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'il a ouvert. Donc, il travaille avec Fev. Moi aussi, pour mes formations, du coup, je voulais y venir, mais je travaille avec Fev parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ils sourcent des cafés incroyables et surtout, ils ont une vision et des valeurs, en tout cas, qui me sont chères, que je partage. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles... J'ai décidé, ouais, on a décidé de travailler ensemble avec Fev.
C'est cool.
Ouais.
Mais du coup, tu l'imposes pour tes formations, ouais. J'imagine, mais tu l'imposes pas pour le choix du.
Pas du tout. Je l'impose pas pour leur choix ensuite, mais après, je trouve que pour débuter, c'est pas mal de commencer, tu vois, avec un café qu'on connaît, surtout quand on est débutant et qu'on connaît pas encore vraiment. Tu vois, les degrés de torréfaction de chaque maison, etc.
Ah non, c'est vrai que c'est plutôt cool et j'en ai pas goûté 100 dans ma vie, mais j'ai jamais été déçu. Donc, très cool. Ok. Et donc, ouverture plutôt pas mal, hein, parce que ça a plutôt bien marché tout de suite.
Ouais, c'est très prometteur. Pour moi, je trouve que le takeaway, c'est un peu l'avenir du café. Bon, après, dans la démarche écologique, il faut vraiment trouver aussi un packaging qui puisse faire sens et aller dans quelque chose de plus écologique que du carton recyclable, tu vois.
Qui n'est la plupart du temps pas recyclé.
Exactement. Mais ce que j'aime, en fait, dans ce modèle-là, c'est que chez B-Coffee, les gens, ils prennent leur café et des fois, ils restent sur place. Et en fait, il y a une émulation entre les clients. Ils se parlent entre eux et c'est trop beau. Tu vois, des gens qui viennent de milieux différents, ou des gens de passage, ou des gens du quartier, tout le monde se parle. Et j'adore.
Trop bien.
Et c'est ça, en fait, quand tu bois un café, c'est l'expérience aussi, tu vois. C'est pas simplement boire un bon café et kiffer dans ton coin, tu vois, et le partage.
Clairement, ouais. Ah oui. Sinon, on le boit tout seul dans une brasserie.
Exactement. Et c'est ce côté... tu vois, quand tu vas en coffee shop et que tu bois ton café tout seul à ta table, bah déjà, la table, ça te crée, en fait, les barrières, tu vois, avec les gens qui t'entourent. Alors que quand t'es debout, en fait,
c'est vrai que je trouve
c'est naturel.
Je trouve ça dommage, même pas en tant que professionnel. Là, je me mets en tant que client dans un coffee shop, mais c'est tellement dommage, tous les ordis et tous les gens qui travaillent sur des...
Ouais.
Je le comprends, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vas, en tant que client, te poser, boire un café dans un endroit où il n'y a que des gens sur leur ordi,
ouais.
Et ben, franchement, je ne citerai pas de nom de coffee shop, parce que le coffee shop est très bien et je n'userai pas une mauvaise pub non plus, mais je suis rentré dedans, je me suis assis juste pour boire mon café.
Ouais,
franchement, j'étais seul au monde à regarder autour de moi.
Je comprends. Et en fait, aujourd'hui, maintenant que je suis un peu de l'autre côté, parce que moi, je travaille beaucoup sur mon ordi maintenant, et que ça m'arrive maintenant d'aller travailler dans un coffee shop.
Ah oui,
tu
mais
vois.
C'est tellement...
Ouais.
Tu vois, je me mets
et
des
je
deux.
Sais. Et mais
c'est tellement agréable.
Ouais. Mais en même temps, je suis dans ce genre de lieu, je suis assez à l'aise et donc je suis assez... sociable, tu vois, et ça m'arrive des fois de discuter avec les gens qui sont à côté de moi, mais c'est parce que je me sens à l'aise et que, tout le monde ne le fait pas, tout le monde, enfin, tu vois, si t'es vraiment en train de taffer avec tes écouteurs, ben ouais, t'as pas envie d'échanger avec les gens qui t'entourent, mais moi, j'essaye au maximum de consommer, genre, quand je vais bosser dans un coffee shop, je bois genre 2-3 boissons parce que je comprends aussi ce côté de monopoliser une table, tu vois, pendant 3 heures. Faut que ça soit rentable. Et je comprends aussi que un coffee shop, ça reste quand même un lieu qui est censé être chaleureux. Donc, des fois, je vais travailler chez Prêt-à-Manger.
Ouais, je t'ai vu la dernière fois, j'ai vu tes stories. Alors, faut suivre le compte Instagram de Lucie parce que il y a un truc que j'aime beaucoup. Je suis pas un grand fan d'Instagram. D'ailleurs, ça doit se voir sur le podcast parce que je poste pas énormément de choses. Alors, je consulte les choses, mais je poste pas énormément. Et je suis assez critique quelque part au genre de ce que j'aime et ce que j'aime pas. Mm-hmm. Avec moi-même, hein, je le partage avec personne, etc. Mais je fais vite mes choix sur ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et en fait, ce que tu postes, c'est assez cool parce que c'est ta vie un peu. C'est la vie des coffee shops. Mais tu partages du pro en même temps. Et c'est assez intéressant. Je sais pas, t'arrives à bien mêler les deux.
En fait, c'est un peu compliqué parce que du coup, j'ai deux Instagram.
Ouais.
J'ai
mon Instagram. Oui, j'avoue, moi, je crois que j'arrive même pas à dissocier les deux complètement.
Perso et mon Instagram pro grinding.fr. Mais du coup, j'interagis plus, tu vois, sur mon Instagram perso parce que des fois, je raconte un peu des. Des trucs LOL, tu vois. Ouais. Et bon, ça fait pas forcément pro sur mon Instagram professionnel, tu vois. Mais
parfois, c'est constructif, tu vois. Ouais. Quand tu parles de la température ou de la.
Ah ouais, cette fameuse story.
Bah ouais. Mais quand tu parles. Mais même des autres choses, tu vois, c'est genre. Non, tu l'as mis aussi chez MOOC, tu as mis température parfaite, etc.
Ouais, ouais.
Et c'est intéressant parce que c'est pas forcément des critères qu'on va penser importants, mais ça l'est. Ouais. Et en fait, ouais, ben, c'est se dire aussi pour les gens qui vont ouvrir un coffee shop ou qui sont baristas, etc., ouais, c'est que la température est super importante.
Mais
pourquoi on chauffe les tasses, c'est pas pour qu'elles soient agréables au toucher. Hein.
Ouais, ouais.
Et du coup, bah, c'est derrière tout ça, quand vous servez... ou quand on sert un café pas à la bonne température ou une boisson pas à la bonne température, c'est une personne qui a dépensé 3, 4, 5, 6 euros dans quelque chose et qui va être déçue derrière.
Bah après, je trouve qu'il y a quand même... moi, j'ai une exigence assez élevée parce que c'est mon métier, tu vois. Mais tout le monde n'a pas ces exigences-là, tu vois.
Non, mais c'est
vrai que moi, je déteste... me brûler avec un café au lait. Franchement, y a rien de pire que... Tu vois, t'es au comptoir, t'attends ta boisson, et tu vois en fait que la barista, genre, le barista brûle le lait. Et j'ai envie de dire, pas trop chaud, s'il vous plaît. Mais j'ai pas envie d'être cette cliente relou, tu vois. C'est compliqué. Il y a une espèce de dualité en moi où je me dis, je veux pas être la cliente relou, mais en même temps, si personne dit rien, tu vois, bah tout le monde s'en contente et on n'avance pas.
C'est clair que pour faire avancer les choses, il faut dire les choses, faut être exigeant en tant que client.
Avec bienveillance, tu vois.
Avec tact et bienveillance.
Je sais, bien sûr.
Et faut pas qu'on commence, surtout nous, enfin moi je déteste faire ça, mais la dernière fois on m'a demandé comment ça s'était passé. J'avais pris un batch dans un coffee shop, c'était surextrait, c'était pas dégueu, mais c'était pas... Et je suis pas arrivé en étalant ma science, parce qu'en plus je sais pas pourquoi ça peut être plein de raisons. Et on m'a demandé comment ça s'était passé. Bah, j'ai répondu gentiment en disant que c'était peut-être un peu extrait. J'ai demandé quel café c'était, etc. Ouais. Et voilà. Et peut-être qu'ils ont regoutté derrière. Ils se sont dit, bah ouais, peut-être qu'on va changer un peu notre réglage.
Ouais. Moi, je trouve que... il faut aussi savoir se remettre en question, tu vois, quand on nous fait une remarque. Mais c'est difficile, je trouve, quand... C'est pas très bien vu, tu vois.
Non.
Parce que, on est barista, on est expert, tu vois. Et en fait, il n'y a pas de vérité absolue dans le café, tu vois. Et c'est aussi ça, c'est une question de goût et c'est après très personnel aussi, tu vois.
Ouais. Mais j'ai souvent dit aux clients, et surtout aux habitués, etc., à chaque fois, je leur demande comment ça s'est passé, parce que c'est pas parce que c'est un habitué que ça se passe toujours bien.
Bien sûr.
Chaque fois, on me dit, bien comme toujours. Je dis, mais faut pas hésiter à me dire si un jour c'est moyen ou pas bon, parce que ça peut arriver. Et faut le dire, en fait.
Ouais.
Faut pas hésiter à le dire, toujours avec tact, comme on a dit, bienveillance. Mais surtout si vous êtes habitué, que vous êtes pote avec le barista, faut surtout pas hésiter.
Ouais.
Parce que et plus il y aura ces exigences, ces retours-là, et plus derrière la machine, on sera exigeant.
Exactement, et plus on avancera, en fait.
Et même vous, de dire... Même si vous ne savez pas mettre des mots sur le pourquoi du comment, d'en parler, de dire, je ne sais pas, j'ai trouvé que là, c'était un peu comme ci, comme ça. Et vous allez développer aussi vos compétences, vous allez en discuter et ça va être trop bien. Et on va monter ensemble et ce sera trop bien. Quoi.
Mais surtout, il faut avoir de la bienveillance. Moi, j'ai été confrontée dans ma carrière, tu vois, à des réflexions de barista homme. Je fais une petite pause pour que vous puissiez réfléchir à tout ça, non, je rigole. tu vois, t'es là derrière la machine, donc moi je suis derrière la machine, c'est moi qui fais les cafés, ouais. Et j'ai mon collègue homme à côté qui est en service, et en fait les gens s'adressent à mon collègue sur le café et pas à moi. Tu vois, ce genre de truc, tu vois, ce genre de choses où t'as des baristas qui vont me dire, à l'époque, c'est quoi ta recette? Mais tu devrais plutôt faire comme ça. T'es sûr, c'est un peu trop acide là.
Le mansplaining dans le café.
Mansplaining, mais il y en a partout. Mais dans le café particulièrement, c'est un milieu qui est très masculin, mais je trouve qu'il y a beaucoup de femmes. On est beaucoup quand même dans le milieu, mais en fait, on nous voit pas. C'est dommage.
Bah ouais, faut qu'on change ça. Hein.
Et oui.
Mais j'ai une technique pour quand un client, je l'avais fait la première fois dans un resto en Écosse, un livreur est venu et a pas calculé les filles qui l'accueillaient. Moi, j'étais au bar en train de servir du vin. Et il vient me parler à moi. Mais genre, elle lui parle, elle lui dit bonjour, enfin en anglais. Hein, mais... Et le mec me dit bonjour monsieur. Mais genre vraiment, tu sens qu'il est pas là pour...
Ouais.
Et je lui dis... vous pouvez par. Je vous laisse gérer avec ma supérieure. Et j'ai pointé la personne. C'était pas ma supérieure, etc. Mais c'était juste pour dire non, en fait, je vais pas te répondre. Et surtout pas comme ça. Et c'était peut-être même moi qui avais la réponse, mais on s'en foutait. Et du coup, ça marche bien. Si un jour quelqu'un nous dit je vous laisse parler avec ma supérieure.
Ouais.
Et du coup, tu pointes la personne. Et comme ça va faire descendre un peu la personne. Et.
Ouais.
C'est con d'en arriver là. Hein, mais...
Après, c'est déconstruire, tu vois, des choses qui ont été... Je sais que c'est pas intentionnel, tu vois, mais c'est...
Non, mais il faut... Oui.
Mais
il faut déconstruire.
Il faut déconstruire. Et c'est vrai que dans... Je trouve, dans le milieu du café... On doit être quasiment autant de femmes que d'hommes à Paris, en tout cas.
Ouais, je pense. Hein. Mais je pense qu'il y a encore du travail parce que quand tu regardes le nombre de personnes dans les compétitions de café, c'est une majorité masculine quand même. Et pourtant, on est tous aussi compétents les uns que les autres.
Bien sûr.
Il n'y a aucune raison qu'on n'est pas dans un sport de haut niveau non plus.
Non, bien sûr.
Qui demande des aptitudes physiques et encore, tu vois. Mais donc là, tout le monde, on a tous nos chances. Quoi.
Ouais.
Donc, il faut aller faire des compètes, les filles, et c'est trop bien. Il faut y aller à fond. Il y en a de plus en plus, mais...
C'est vrai.
Mais ça reste quand même, les podiums restent très masculins.
Ouais.
Bon, championne d'aéropress cette année, une femme quand même, australienne.
C'est génial,
trop bien.
Ouais.
Trop bien. Donc, et elles étaient deux en finale.
Ouais.
Deux en finale, trop bien. Enfin, en finale, sur le podium, quoi.
Mm.
Donc, trop bien, mais c'était quand même globalement très masculin. On s'égare encore. Le titre du podcast, il va être à rallonge. Marathon / café /
Eh, mais on n'a pas parlé du Holly Bailey Running Club.
Ah oui.
Et oui.
Et ouais.
Ouais.
C'est vrai. Tu vois, tout est connecté au final.
Ouais. Bah oui, Holly Bailey Running Club que j'ai fondé avec Pauline et Juliette, du coup, pendant le confinement, le deuxième. Et ça a bien pris parce qu'au final, on se disait quand même, la course à pied, enfin, le sport, c'est quand même important dans notre métier, tu vois. On fait un métier de service, on est dans la restauration et en vrai, t'as besoin d'entretenir ton corps, t'as besoin d'entretenir ta machine, quoi. Donc, on a créé ça, on allait courir une fois par semaine. Là, j'avoue, je l'ai un peu délaissé et il fait un peu froid pour aller courir en ce moment, mais...
Moi, j'étais hier et j'y retourne cet après-midi.
Ah bah, écoute...
Mais c'est vrai qu'il fait froid.
Ouais, je suis... Respect. Là, je peux pas. Mais donc voilà, Holly Bailey Running Club. C'était cool, ça.
Bah, moi, je l'ai pas connu, du coup. Hein.
Mais non, mais je vais essayer de voir si on peut remettre en place quelque chose. Non, c'était vraiment chouette. Du coup, pendant le confinement, on a fait un relais... avec toute l'équipe Holly Bailey qui voulait courir, on a récolté des fonds pour l'association Ernest. C'était une chouette expérience, ouais.
Trop bien. Ouais. Non, ça a donné envie de l'extérieur aussi, franchement.
Ouais.
Et c'est un bon moyen de sympathiser en dehors du travail avec ses collègues et ne pas juste aller boire des coups.
C'est ça.
C'est cool.
Ouais.
Les deux sont cool, hein. Aller boire des coups et courir, hein, mais.
Bien sûr.
Mais,
on peut non, c'est courir chouette. Et aller boire des coups après aussi.
C'est ça. Souvent, ça marche comme ça. Ouais. Hein. Mais ouais, Holy Belly Running Club, du coup, trop bien. Mais ouais, il y a encore un petit peu ce truc-là. Les gens essayent un petit peu de... Mais t'étais le moteur, je crois. Hein. Voilà. T'étais le moteur de Holy Belly.
Ah running, non.
Running Club.
Running Club, ouais.
J'ai fait une pause entre les deux. Ouais. Et du coup, revenons à nos moutons. Donc, ouverture de
Be Coffee.
Ouais, de Be Coffee.
Ouais. Et à là... côté de ça, d'autres projets de ouf.
Donc là, t'es partie de chez Holy Belly à ce moment-là.
Ouais. Je quitte Holy Belly mi-septembre.
Mm-hmm. Et du coup, là, paf, lâché.
Ouais, alors ça a été un peu le grand saut dans le vide. Hein. Je de quitter le salariat pour une activité indépendante, bah ça m'a fait très peur. Mm-hmm. Je vais pas le cacher, mais en même temps, je pense que dans la vie, faut prendre des risques. Enfin, t'es obligé en fait d'avoir ces périodes de doute et là aujourd'hui, je regrette pas parce que je me diversifie aussi, je fais pas que de la formation et ça du coup c'est génial parce que je m'ennuie pas dans ce que je fais, tu vois, j'ai fait de l'événementiel, je fais des chiffres de barista aussi, hein, ça m'arrive et je suis trop contente des fois d'aller derrière une machine, ça fait...
Okay.
Ça fait
les gens peuvent te contacter s'ils entendent qu'ils ont besoin d'un barista temporaire ?
Ah oui, bien sûr, ouais, après c'est en fonction de mon emploi du temps, mais oui, bien sûr.
Ce qui est normal.
Ouais. L'événementiel, jamais j'aurais cru faire ça, tu vois. J'ai fait un événement pour des marques, des grosses marques, tu vois. J'en ai fait deux, okay. Trois. Ça fait 2 mois que j'ai démarré mon activité, tu vois.
C'est trop bien.
Donc non, je suis hyper heureuse. Du conseil pour des marques. Ouais, je me diversifie, c'est trop cool.
Trop bien.
Ouais.
Et du coup, pour les gens aussi, donc tu fais du particulier. Et tu fais aussi du pro.
Alors, pour le moment, je fais que du pro.
Ok.
Mais je suis en train de réfléchir à faire une offre effectivement pour les particuliers, mm-hmm. parce que je commence à avoir de la demande et que je trouve ça trop chouette que les gens, ça y est, s'intéressent à ça. Mais il faut que je condense un peu ma formation, c'est un peu dur. Je suis hyper bavarde. Et j'ai trop de choses à dire. Et il faut que je réussisse à condenser vraiment les informations les plus importantes, tu vois, en quelques heures.
Ouais.
Tu vois.
Ouais. Ouais, je comprends, c'est pas évident. Faut aller.
On a aller toujours à envie l'essentiel, d'aller. Ouais. Mais il y a tellement de choses, en fait.
Ouais. Ah non, c'est. J'avoue, je trouve que c'est pas un exercice facile aussi, surtout quand t'es pointilleux. C'est que t'as envie de tout expliquer d'un coup, mais les personnes ne peuvent pas enregistrer tout d'un coup.
Exactement.
C'est normal.
Ouais.
Il y a plein de choses que. On pourra leur expliquer que, et même nous encore aujourd'hui, hein, il y a des choses, donc je me rends compte des choses et en étant face au problème, je me dis, ok, je comprends maintenant.
Ouais.
Mais avant, je ne pouvais pas le comprendre.
Ouais, ouais.
Donc ouais, c'est pas évident. Même quand on apprend, quand on lit des choses, il y a des choses que j'ai lues il y a un an et seulement maintenant, je comprends. Et je me dis, oui, ok.
Ouais, il faut digérer.
Il faut se retrouver face au problème.
Ouais.
Faut...
Aussi, ouais.
Mmh. Ouais, non, trop cool. Bon, bientôt, il faut suivre son compte Instagram et son site internet pour les formations particulières. Il y a une grosse demande. Hein.
Il y a une demande, ouais. Ouais.
Je ne sais pas jusqu'où sont prêts à aller les gens, etc. Si c'est juste quelques heures, un petit cadeau par-ci, par-là, ou une petite initiation, ou si c'est plus,
c'est
mais
ça,
il y a de la demande.
Tu vois que les gens commencent à mieux s'équiper à la maison aussi.
Ouais.
Et du coup, qui se retrouvent avec des machines... qu'ils ont payé une fortune, mais ils se retrouvent un peu à pas savoir comment bien extraire leur café, ou tu vois. Donc déjà sur ça, je trouve que les fabricants de machines, ils pourraient aussi mettre un livret, ou j'en sais rien, tu vois. J'ai tellement de gens dans mon entourage qui me disent, ben voilà, j'ai acheté ça et en fait mon café il est dégueulasse, tu vois, C'est dommage.
On revient toujours à la même chose, hein, mais avant d'acheter une machine, c'est
venez
souvent
nous
un
voir.
Exactement.
Venez nous voir avant d'acheter la machine, s'il vous plaît.
J'en ai peut-être déjà parlé dans un autre podcast, mais le groupe Facebook, la confrérie du café, je participe pas, mais je lis, je vois les choses qui passent. Mm-hmm. Oh, le nombre de personnes qui ont dépensé 1 000, 1 500 euros dans une machine et qui se retrouvent avoir quelque chose de pas bon. Et en fait, les meilleures personnes qui pourront vous donner des conseils, c'est les baristas. Ouais. Pourquoi ? Parce que si on vient et qu'on me demande quelle machine acheter, je vais déjà vous poser la question, quel temps vous êtes prêt à accorder au café, à votre préparation de café. Si pour vous, vous préparez un café, ça doit se faire en 2 minutes top chrono, bah prenez une machine automatique. Jamais je vous aurais entré sur un percolateur. Si après, ça, c'est discutable, mais vraiment, n'achetez pas une machine à 1 500 € si vous n'êtes pas prêt à prendre.
Ouais, moi, mon avis sur le fait de boire un bon espresso à la maison, c'est assez tranché. Hein.
Ah oui.
Ouais, moi, je dis aux gens, franchement, si vous avez suffisamment d'argent pour investir dans une machine et un moulin, go. Mais en fait, ça nécessite aussi l'achat de balances, de choses. Ouais. Il faut être précis. Franchement, faites-vous un bon filtre. Ouais. Faites-vous un bon V60 hein, et aller boire un espresso dans les endroits où vous savez que l'espresso sera délicieux. Moi, c'est ce que je fais. Je bois pas d'espresso chez moi et je sais où aller et je perds pas de temps à goûter mes cafés. Tu vois, il y a ça aussi, c'est que pour faire un bon espresso, il faut d'abord tester des recettes. Et en fait, tu te retrouves à la fin, alors certes avec un espresso équilibré, mais avant ça, t'en as bu je sais pas combien parce que tu dois régler ton moulin, tu vois.
Ouais. Non, c'est clair qu'on n'aura jamais un bon espresso chez soi, à moins d'y accorder le temps
et l'argent. Exactement, ouais. Mais faites-le, hein, si vous le... Vraiment, j'encourage les gens, s'ils sont vraiment déter, comme on dit, allez-y, hein.
Filtre. Moi, je pense qu'une machine automatique, c'est un bon compromis, mais il ne faut pas s'attendre à avoir un bon espresso. Il faut avoir un espresso correct.
Ouais, correct, ouais, c'est
correct
ça.
Correct et forcément moins puissant que... Mais faites pas des achats de dingue si...
Venez nous voir, posez-nous la question.
Écrivez-nous sur Instagram, on vous répondra. Mais dépensez pas... Oh là là, c'est... Parfois, ça, je me dis, mais... Et puis, les conseils des gens qui... Sur le groupe La Confrérie du Café, des gens conseillent directement d'aller sur une machine, mais non, enfin, faut... Enfin, c'est compliqué, je trouve. Et c'est beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup.
Et oui.
Et puis, même chez moi, si je dois
toi,
faire 10
espresso... Toi, tu te fais quoi comme café chez toi ?
Chez moi, la plupart du temps, Aeropress ou Origami en ce moment. Okay. J'aurais bien une petite machine chez moi, mais si je prends une machine, je prends une petite. Et je sais que ce sera que de temps en temps.
Ouais, c'est ça. Et surtout, au-delà de la machine, le moulin, il est aussi important que la machine à café, sachez-le. Il faut un bon moulin pour avoir une mouture homogène.
Ouais. Et tu vois, si je m'en prends une, j'ai mon commandant de thé, ça me suffira parce que je ne vais pas m'en faire tous les matins. Ce sera très bien, tu vois.
Ouais.
Mais ouais, si vous allez vous faire 2, 3, 4 espressos par jour, un moulin manuel, vous allez pleurer. Hein.
C'est clair.
Donc, posez-nous la question. Venez nous voir. Et donc, du coup, maintenant, comment tu vois... Comment tu te vois dans quelques temps avec l'entreprise ? Est-ce que t'aimes former les gens, t'aimes partager, mais est-ce que tu dois avoir des employés ? Est-ce que tu dois faire un truc plus gros ? Est-ce que tu...
Ouais, je me vois grandir, ouais. Alors, pas là à moyen terme. Là, je veux vraiment me tester en indépendante.
Ouais.
Voir un peu aussi quelles sont les limites. Parce que je suis auto-entrepreneur. Mais avec le développement de mon activité, je pense en 2023 basculer en société, tu vois. Et je vois grand.
Trop bien.
Ouais.
Une école ?
Ouais.
Ok. Trop bien.
Je sais pas encore comment, ni où, ni quoi, mais ouais. Franchement, j'ai envie de valoriser le métier de barista, tu vois. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore un métier qui reste peu connu. Et la valorisation, en fait, ça passe aussi par le fait de susciter des vocations, tu vois.
Bien sûr.
C'est que aujourd'hui, j'ai beaucoup de demandes d'accompagnement pour ouvrir des endroits, ce que je trouve très cool. Mais mon but aussi, c'est de permettre au secteur d'avoir des baristas qualifiés, parce que le secteur est tendu et les établissements recherchent des gens confirmés. Des baristas confirmés. Sauf que les baristas confirmés, franchement, ça court pas les rues à Paris. Hein.
Non.
Donc, à la base, moi, c'était ça. Hein. Vraiment, mon but, c'était de qu'il y ait plus de monde sur le marché. Ça va arriver. Il faut être prêt à miser sur soi-même, en fait, tu vois, et à investir sur soi-même.
Ah non, je suis assez d'accord. Et c'est galère en ce moment pour tout le monde de recruter des bons baristas.
Ouais.
Et du coup, bah, il faut plus d'écoles, il faut plus de formations. Aujourd'hui, il n'existe quasiment pas de formation autre que des formats d'une semaine ou des choses comme ça. Ça devrait pouvoir évoluer, pourquoi pas.
Ouais.
Il y a bien des modules d'hôtellerie, de formation qui durent des années.
Ouais.
Pourquoi on ne pourrait pas y arriver dans le café? Et ça pourrait être trop cool.
Bon, après, faut pas se mentir, hein, le café, c'est pas ce qui rapporte le plus d'argent à un établissement, tu vois, c'est pas très rentable si tu fais pas de volume.
Ouais.
Donc, il y a aussi ce paramètre à prendre en compte, tu vois, dans la durée d'une formation et le prix aussi d'une formation.
Ah, mais comme on en a parlé tout à l'heure, un peu, être barista, c'est pas juste faire du café,
non,
c'est
bien
parfois
sûr.
Aussi tout le métier qui
va autour. Ça, c'est...
Et il faut l'apprendre aussi.
On vient du secteur de la restauration, on est FOH, donc on est front of house, on fait du service, on fait de la vaisselle, on fait des remontées de charges. C'est un métier qui est difficile physiquement, mais en fait, il faut être, je pense, un minimum passionné par ce qu'on fait, tu vois. Mais c'est beau, tu vois. Si t'es curieux, t'en apprends tous les jours. Tu vas au travail, tu sais que tu vas faire plaisir aux gens. Moi, j'aime bien.
J'aime bien aussi. Mais ouais, non, c'est trop bien. Franchement, j'aimerais beaucoup devoir monter ton école et je pense pas que ce soit si gros que ça. Je pense que ça peut se faire petit à petit. T'as déjà commencé le premier petit.
Ouais, le processus est en route.
Ouais, et ça montera progressivement. C'est une des choses, je pense, que tu peux faire évoluer facilement parce que t'as pas besoin d'un grand local tout de suite. Tu peux avoir un petit truc.
Ouais.
Tu peux ne pas en avoir et puis progressivement, bah, au fur et à mesure que ton affaire monte, bah, tu la fais évoluer avec.
Tout à fait.
Et si ton école, elle passe d'un arrondissement à un autre, bah, on s'en fout parce que les gens vont pas venir toute leur vie là. Et... Donc, c'est encore différent d'un coffee shop où c'est plus délicat de changer d'emplacement, etc.
C'est sûr.
Donc, non, j'y crois et ce sera plus simple que ce que tu penses. J'en suis sûr. Parce que ça va venir avec. Tu le vois déjà sur les premiers mois de ton activité.
C'est
trop
ça.
Cool.
Ouais.
En tout cas, et n'hésitez pas aussi à faire appel à elle si vous avez des nouveaux employés qui ne sont pas formés ou qui veulent se former sur votre lieu de travail. Parce que j'imagine que c'est quelque chose
qu'on peut faire. Je sais qu'en général, c'est aussi assez compliqué... de pouvoir gérer aussi l'emploi du temps, le planning sur ce genre de demandes. Moi, ça a été le cas pour plusieurs clients. Mais moi, je m'adapte. Je m'adapte aux horaires, aux horaires d'ouverture, à l'emploi du temps du staff.
Ouais.
C'est possible. C'est quelque chose qui est totalement possible aussi.
Et donc, on parlait de Sarah tout à l'heure, mais que tu as formé... qui est passé de salle au bar. Et j'avoue, c'est assez bluffant le niveau qu'elle a atteint très rapidement.
C'est ouf. Donc, elle a été... franchement, en une heure de pratique, déjà, elle savait bien steamer le lait, bien l'émulsionner. Et je suis hyper heureuse de l'avoir évolué comme ça. Parce qu'en plus, ça sent qu'elle s'épanouit aussi, tu vois. D'ailleurs, je la vois demain. On va continuer un peu le training. Ouais.
Mais donc, n'hésitez pas si jamais vous montez un business et que vous avez besoin d'un bon barista qui est débutant ou moyen confirmé, etc. Faites appel à Lucie parce que du coup, c'est le meilleur moyen, je pense, de faire venir quelqu'un à côté de soi et de le former comme ça. Je pense que ça peut être vraiment. On le fait pas assez, je trouve.
On le fait pas assez. Et il y a des choses aussi. Que je voulais relever, c'est que Des fois, moi, donc quand je vais sur des lieux pour former des employés, je vois qu'ils n'ont pas les bons gestes ouais. et qu'ils s'épuisent, tu vois. Enfin, à force, en fait, tu peux vite te blesser. Ouais. Et ça aussi, c'est tellement important, le workflow, tu vois, comment on appelle ça comme ça.
L'ergonomie de travail.
L'ergonomie, ouais, c'est
parfois, la position d'un moulin peut tout changer. Oui.
Mais bien sûr.
Donc, donc ça peut non, c'est, je pense vraiment qu'il faudrait qu'on fasse plus ça, c'est ouais. pas forcément se faire former par les gens qui sont sur place, mais appeler quelqu'un de compétent qui est là, parce que c'est toujours difficile de planifier deux personnes en même temps.
Bien
aussi dans des
ouais.
petits coffee shops ou dans des petites structures, c'est pas évident, donc n'hésitez pas. C'est pas juste pour te faire de la pub, mais je pense que c'est ça l'est quand même, hein, mais parce que je pense que ça peut être un vrai bénéfice pour des coffee shops ou des restos.
Je pense aussi.
Ou même si vous voulez améliorer votre offre café dans votre resto.
Et même montrer à vos employés qu'ils sont importants. Il ne faut pas oublier que dans un resto, l'humain, c'est le plus important. Enfin, c'est eux qui sont face aux clients, c'est eux qui fidélisent la clientèle. Et en fait, si t'as trop de turnover parce qu'en fait tu t'occupes pas de ton staff, les clients aussi ils vont finir par arrêter de venir, tu vois. Et non, il faut prendre soin de ses employés.
Je suis assez d'accord. C'est trop bien. J'ai hâte de voir la suite. Merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses.
T'as combien de temps là?
Bon, je peux te dire. Hein. On en est à
1h30.
Oh, 1h. Attends, 1h16.
Ah, c'est pas mal, ça va.
1h16. Ouais, d'accord. Avec. Donc.
On a abordé pas mal de sujets.
Mais ouais, c'est déjà trop bien.
Ouais.
Enfin, franchement, on pourra peut-être refaire un épisode 2 dans.
À voir.
Dans quelques
si
années.
Ça vous intéresse. Ouais.
Parce que c'est trop cool. Je trouve ça en plus trop bien de pouvoir voir ton évolution et de se dire là, il y a.
Ouais, c'est cool.
Moi, dans quelques années, peut-être qu'on va parler de ton école et que. Ça va être trop bien. Mais voilà. Non, très, très, très content de l'interview. Et puis,
merci beaucoup. C'est
merci
cool. J'aime beaucoup parler aussi de ce qui m'anime, tu vois.
Ouais. Mais tu vois, t'étais un peu stressée, etc. Ça s'est bien passé, non?
Ouais, ça va. C'est parce qu'il fait froid, en fait.
J'avoue. Ouais. Mais je crois que l'espèce de canon à neige d'air chaud, là, derrière toi, il souffle froid, non?
Ouais, je crois.
Voilà. Non, trop bien.
Merci beaucoup.
Merci à toi. Salut.
Au revoir.
Au revoir.